Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions européennes face aux tarifs commerciaux et aux incertitudes tarifaires également et leurs conséquences pour les entreprises européennes cotées. Nous en parlons avec Roland Caloyan, responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonsoir Roland.
Bonsoir Edouard.
Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, ça, c'est redevenu un classique, les entreprises face aux tarifs douaniers. Si je dis pas de bêtises, on a 10% aujourd'hui, hein, c'est ça, pour accéder au marché américain, et puis des tarifs sectoriels, alors qu'il faut pondérer, parce que je crois que sur le secteur auto, on est à 25%, mais il y a un certain nombre d'exemptions en cours ou à venir qui libèrent quand même une partie de ce secteur pour les importations sur le territoire américain. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que vous avez réfléchi, remis à jour d'ailleurs peut-être les conséquences de ces tarifs Trump 2.0 sur les entreprises européennes, avec des conséquences direct et aussi indirect, Roland.
Alors, évidemment, il y a les conséquences directes. Nous, on estime que l'impact sur la croissance européenne est aux alentours de 0,5 points de PIB. Donc, à la baisse, évidemment.
Oui.
Donc, c'est effectivement quelque chose qui va peser hein, sur la croissance cette année. Alors, ce qui est difficile, j'ai envie de dire, quand on commence à regarder au niveau des valeurs, c'est qu'effectivement, il y a des exemptions. Et puis ensuite, il faut regarder pays par pays, secteur par secteur, j'ai envie de dire même boîte par boîte. Parce qu'il y a des entreprises, par exemple, on parlait de l'automobile, tel modèle est directement fabriqué aux États-Unis pour le marché américain, et il y a des modèles de marque allemande qui sont fabriqués aussi en Allemagne. Donc, c'est pas évident, on peut pas mettre un chiffre sur absolument tout. Et puis, toujours si on reste au niveau des valeurs, qui va payer ces tarifs? Est-ce que ça va être le consommateur américain? Donc, est-ce que les entreprises vont avoir du pricing power, c'est-à-dire vont être capables de monter les prix de 10%, de 25%, voire plus, ouais. C'est possible, ou est-ce qu'elles vont accepter de rogner une partie de leur marge, donc je monte mes prix que de 5, par exemple, et donc ça veut dire que j'ai un impact sur ma marge.
Et comment ce choix va se faire, entreprise par entreprise ou secteur par secteur, Roland?
Après, ça va se décider secteur par secteur. Évidemment que si tout le monde va augmenter les prix, on va avoir un impact sur l'inflation, mais il se peut effectivement que certains vont essayer de chercher à gagner des parts de marché. Donc j'ai envie de dire, ça dépend aussi dans le secteur. L'élasticité du prix va être très important, parce que sur certains secteurs, le prix est très important. Dans d'autres secteurs ou dans d'autres, j'ai envie de dire, gamme de produits, quand on pense à l'automobile, par exemple, c'est le plus évident, on peut être moins sensible au prix, finalement, quand on veut ce modèle
renouveler
de voiture premium. On veut ce modèle de voiture premium. Le prix est moins important.
Est-ce qu'on pourrait retrouver des comportements de marge comme ceux qu'on a vus pendant le Covid, c'est-à-dire des entreprises sans réel pricing power structurel fondamental, se dire l'occasion est trop belle, puisque de toute façon il y a une telle confusion autour des tarifs, le consommateur, je caricature, mais le consommateur il verra que du feu, hop, j'en profite pour mettre moi aussi en place quelques hausses de prix. Ce qu'on a vu, les marges de profit tirées à la hausse par les effets inflationnistes du Covid, est-ce qu'on peut revoir ce genre de comportement?
Alors oui, mais de manière assez limitée, parce que le Covid, c'était une problématique de supply chain mondiale, hein, chaîne d'approvisionnement. Donc, il n'y avait pas assez de pièces, en gros, pour tous les fabricants, si on reprend encore l'exemple de l'automobile, dans le monde, mais c'était vrai aussi pour les industriels, etc. Donc, tout le monde augmentait les prix. Là, attention, parce que si on reste sur les voitures vendues aux États-Unis, celles qui vont être fabriquées aux États-Unis auront un avantage compétitif. Donc, là-dessus, effectivement, si elles décident d'augmenter aussi leur prix, elles vont augmenter leur marge, c'est possible. Mais je pense pas qu'on est totalement dans la même configuration. Ce que cherche aussi l'administration américaine, c'est donner un avantage compétitif qui produisent aux États-Unis.
Exactement.
Il y a une histoire derrière aussi. C'est la réindustrialisation des États-Unis. Et je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt. J'ai pas vu encore de grandes annonces industrielles en disant les annonces de tarifs, d'aller rebasculer complètement la production aux États-Unis. Après, à moyen terme, je pense que les entreprises vont s'adapter elles ne font que cela depuis le Covid.
Ah, oui.
Hein, Covid, oui. Crise énergétique, guerre. Donc elles savent s'adapter, elles s'adapteront. Et je pense effectivement... on risque de voir une partie de réindustrialisation aux États-Unis.
Ah ouais. Oui, oui, on oublie, on sous-estime souvent l'agilité des entreprises face à ces chocs et cette économie de choc. Il y a les conséquences directes pour les entreprises européennes qui cherchent un accès au marché américain, et puis il y a les conséquences indirectes, avec, pour le coup, une concentration de la guerre commerciale sur la Chine, qui va avoir des répercussions, alors c'est la question, conséquences positives et ou négatives pour des entreprises européennes sur leur marché européen, mais peut-être aussi des conséquences et des opportunités sur le marché chinois, Roland.
Alors oui, alors surtout l'Europe a une relation avec la Chine très spéciale, j'ai envie de dire. Et c'est même mis en avant par Mario Draghi dans son rapport, en disant, pendant des années, les Chinois ont été un peu nos clients, et maintenant, ils deviennent même des compétiteurs. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que là-dessus, pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de secteurs, ça reste un client important. Et c'est vrai que la guerre commerciale se focalise entre les États-Unis et l'Europe pour l'instant.
La Chine.
Et la Chine pour l'instant. Il faut savoir qu'on parle quand même de. Quand on regarde les exportations chinoises vers les États-Unis, on parle de 439 milliards de dollars. Mm-hmm. 12% des exportations chinoises, c'est vers les États-Unis. Mm-hmm. Donc si demain ce marché est fermé, quasiment fermé, où vont partir les produits?
Là où ça sera plus facile de les écouler.
Voilà, donc l'Europe reste évidemment une région où on pourrait voir plus de produits chinois, et ça peut être effectivement un risque pour les entreprises européennes aussi, de voir une arrivée de produits chinois. Donc on a un petit peu regardé, nous, quel peut être l'impact. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un petit peu les secteurs qui exportaient aux États-Unis, on a regardé aussi l'élasticité au prix, parce que c'est souvent sur ce type de produits. Là où il y avait aussi de la surcapacité, parce que c'est là aussi où on peut avoir des prix. Après, on a trouvé des choses qui sont finalement, en termes sectoriels, au niveau du marché, relativement limitées. On parle de biens d'équipement électronique. Bon, les entreprises européennes, enfin, c'est pas un gros secteur dans le marché européen. Pareil pour l'électroménager. Enfin, encore une fois, quand je parle des marques, on pense peut-être plus à des marques coréennes ou des marques japonaises quand on va acheter sa télé ou son nouvel ordinateur. Les batteries, on n'a quasiment plus non plus de batteries en Europe. Il y a tout ce qui est panneaux solaires, mais ça, j'ai envie de dire, c'est déjà
le cas. C'est déjà la réalité.
Exactement.
C'est déjà la réalité.
Et puis, il y a l'automobile. Alors, l'automobile, là aussi, hein, ça a déjà commencé. Et puis, ce n'est pas vraiment la conséquence des tarifs. Parce qu'en fait, il y a déjà des taxes de douane très importantes sur les importations. Il y a que 120 000 véhicules qui sont exportés entre de la Chine aux États-Unis, donc c'est très
en Europe, vers l'Europe.
Non, vers les États-Unis.
Chine, oui, donc, Chine. Qui pourrait voilà. se reporter. Oui, je comprends. Oui,
et
oui.
là, c'est
oui,
la oui. première fois dans les données là cette année qu'on a vu un inversement entre l'Europe et la Chine dans la balance commerciale sur l'automobile. C'est-à-dire que historiquement. On exportait plus de voitures en Chine qu'on importait de Chine. Et là, ça a basculé.
Ouais, les lignes sont...
Et en plus, si on parle vraiment des marques, il y a le projet quand même de BYD de s'installer en Hongrie et de commencer la production dès la seconde partie de l'année. Donc là, effectivement, voilà, c'est pas une conséquence directe non plus des tarifs. Mais un secteur qui pourrait être effectivement sous pression.
Le marché américain étant déjà verrouillé pour l'automobile chinoise, il n'y a pas besoin de se reporter massivement sur l'Europe, qui est déjà une terre de conquête pour les marques chinoises. Donc vous dites, au final, assez peu de secteurs européens qui seraient exposés à une intensité concurrentielle nouvelle, délirante, venant de Chine. Quoi.
Alors après, ce sera sur des produits sélectifs. Je pense aux semi-conducteurs, je pense à la chimie, pense au textile. Donc ça peut être effectivement des sous-compartiments. Il faudra voir aussi l'agressivité de la Chine. Et ça sera sur certains produits. Parce que les Européens, les entreprises...
Oui.
Semi-conducteurs européennes et chinoises.
Ils n'ont pas toutes la même gamme.
Exactement.
Bien sûr.
Donc, est-ce que les Chinois vont monter en gamme pour concurrencer les Européens? Donc ça, c'est effectivement une question qu'il faudra voir. Là, ça sera plus une question industrielle, j'ai envie de dire. Comment vont se positionner les Chinois?
Alors, que les Européens deviennent des clients des producteurs chinois, c'est une chose, mais la Chine reste quand même aussi en partie des un client pour bon nombre d'entreprises européennes. Est-ce que cette guerre commerciale et cet affrontement concentré entre les États-Unis et la Chine, est-ce que c'est l'occasion pour des entreprises européennes de retrouver une partie des parts de marché qu'elles ont pu perdre ces dernières années en Chine ?
Oui, et par rapport aux entreprises américaines, parce que comme les Chinois mettent aussi des taxes de douane en réponse aux Américains, ça va être plus compliqué aussi pour les Européens, les Américains, de faire de continuer à gagner des parts de marché en Chine. Et pareil, on peut se dire que sur le marché américain, il y aura des opportunités aussi. Donc, quelque part, l'Europe, quand on regarde un petit peu son positionnement, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de représailles. Elle se donne le temps de réfléchir. Je ne sais pas si c'est voulu, en tout cas, mais elle veut plutôt chercher à négocier et pas se mettre à dos ni les Chinois, ni les Américains. Effectivement, il peut y avoir aussi des parts de marché qui sont gagnées par les entreprises européennes dans ces deux zones-là.
Une fois qu'on a dit ça et qu'on a fait tout ce travail effectivement sur les tarifs et les conséquences pour les entreprises européennes, comment vous regardez le marché, les actions européennes aujourd'hui, les grands indices actions en Europe aujourd'hui, ça traite à quel niveau, pour quel type de scénario est-ce qu'on est positionné, notamment de scénario de croissance bénéficiaire des entreprises. Alors on est encore au début, dans la première partie de la saison de publication de résultats, mais comment est-ce que vous trouvez le niveau de valorisation du marché européen là aujourd'hui par rapport à ces perspectives ?
Alors, je trouve que le marché aujourd'hui, il est valorisé de manière totalement, on dit fair value, c'est-à-dire plutôt correct. D'accord. Pour vous donner par exemple un chiffre qui est assez intéressant, on est entre 13 et 14 fois quand on regarde les bénéfices, quand on regarde les ratios, les multiples, c'est la moyenne depuis 2009. Pour le marché européen. Et pourquoi on a l'impression que c'est pas cher ? On a l'impression que c'est pas cher parce que le marché américain, lui, se traite sur des primes beaucoup plus importants et même par rapport à son
historique.
Exactement. Ah ouais. Donc c'est vrai, on regardait ça sur depuis 2009, depuis la grande crise financière. L'Europe est en gros à sa moyenne, les États-Unis sont bien au-dessus de leur moyenne, et par exemple le Japon, on mentionne le côté value, est en dessous de sa moyenne. D'accord. Mais voilà, sur l'Europe, c'est dur de dire aujourd'hui, l'Europe est vraiment peu chère. Par rapport aux États-Unis, oui. Ensuite, la croissance bénéficiaire, depuis 2 ans, on n'en a pas, c'est zéro. Alors, c'est pas négatif, mais c'est zéro. On était sur une croissance bénéficiaire attendue en 2025, avant les annonces de tarifs, autour de 5-6%. Donc là, effectivement, il y a les résultats. Et ce qu'on voit dans les estimations flash, c'est-à-dire que si vous prenez en compte les derniers changements des analystes, les tout derniers changements d'estimation, on commence à voir effectivement que les choses sont en train de s'effriter, effectivement. Il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment les tarifs et la croissance, l'euro-dollar aussi qui pèse. On estime qu'à peu près 10% de baisse du dollar, c'est environ 4% au niveau du marché de baisse des BPA. Donc tout ça, effectivement, fait qu'on pourrait voir dans les prochaines semaines des révisions baissières.
Merci beaucoup, Roland. Merci d'être venu nous voir pour parler de ces actions européennes. Roland Calognan, le responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale, CIB, était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.